Il est 18h. Le journal, Loïc Georgi, bonsoir.
Bonsoir. Les intempéries ont remué notre région ces dernières semaines et cela a posé plusieurs soucis, notamment au niveau des lacs. C'est le cas à Bienne où la surveillance du niveau de l'eau est très forte depuis quelques jours. Et la nature n'est pas la seule à être impactée par cette météo, la population aussi. Et on le voit particulièrement chez les pompiers qui ne comptent pas leurs heures de travail pour venir en aide aux habitants. Témoignage dans ce journal. Tadej Pogacar fait un pas de plus vers la victoire sur le Tour de France. Le Slovène a remporté l'avant-dernière étape des Pyrénées cet après-midi. Une victoire qui renforce un peu plus son maillot jaune de leader sur cette grande boucle. Et météo, pas grand-chose de neuf de plus à vous dire puisque le temps sera le même que ces derniers jours. Des forts orages pourraient se déclarer dans la région cette nuit. Et côté température, on prend les mêmes et on recommence. Le niveau du lac de Bienne est un peu redescendu depuis ce matin. Il reste toutefois proche de la côte d'alerte. Dans les zones à risque, on se prépare déjà à affronter les inondations, surtout que des pluies intenses sont attendues ce soir et cette nuit. On attend 50 à 80 mm de pluie avec des pointes possibles jusqu'à 100 mm localement en conditions orageuses. Les débits maximaux seront vraisemblablement atteints demain sur l'Arve jusqu'au lac de Bienne. Le lac qui va voir son niveau monter jusqu'à samedi selon une estimation des spécialistes. Autour du lac, certains craignent une crue comme celle d'août 2007. Va-t-on revivre un tel épisode ? La réponse du porte-parole de l'organe régional de conduite de Bienne, Mathias Ruttimann.
Ça, pour le moment, je pense, personne peut vous dire, parce que ça dépend tellement des facteurs. D'abord, combien de précipitations on va encore avoir dans les prochains jours ? Puis, ça dépend aussi combien d'eau on peut laisser partir du lac de Bienne, parce que ça dépend après, le canton de Soleure, le canton d'Argovie, ils sont aussi concernés. Alors là, il y a un accord entre les cantons qu'on veille qu'on laisse pas trop d'eau partir du lac de Bienne. Puis ça dépend combien de l'eau à Thun, hein, ils vont nous envoyer. Et toutes ces conditions sont en jeu. Pour le moment, on ne pense pas qu'on va arriver comme dans l'année 2007 dans la même situation, mais personne ne peut vous dire maintenant.
Alors juste qu'on comprenne bien cette histoire de régulation d'eau, vous avez dit, ça dépend combien tout nous envoie, après ça dépend nous combien on envoie aux autres, c'est-à-dire qu'il y a tout un système de barrages, de vannes, et c'est cette régulation-là qui doit être faite, c'est ça ?
Exactement, voilà. Ce sont des décisions qui sont à prendre, mais ce n'est pas la ville de Bienne ou l'organe de conduite régio qui peut prendre ces décisions. Ce sont des décisions qui prend le canton et je pense après encore ensemble avec la Confédération.
Mathias Ruttimann était au téléphone d'Olivier Zano. Ce problème a évidemment un impact sur beaucoup de secteurs et un en particulier, celui de la navigation. En effet, tous les bateaux ont l'interdiction de circuler sur le lac de Bienne actuellement. Une situation complexe après une année compliquée en raison de la crise sanitaire. Ce coup d'arrêt est dû à la météo stress. Thomas Mulet-Aller, directeur d'exploitation de la navigation du lac de Bienne.
On est très tendu, on est préparé, c'est pas la première fois que ça arrive, on a des checklists, on suit. Il y a maintenant un comité d'urgence organisé par la préfète de Bienne, on est en échange constant avec les autorités pour voir ce qu'on peut encore faire, mais la situation actuelle, elle est très mauvaise et puis elle ne va pas s'améliorer les prochains jours. On se prépare, surtout si le lac monte encore à 40 à 50 cm, on doit sortir les bateaux du port, on doit les mettre sur l'ancre dans le bassin du lac et puis là... C'est là ce qu'on discute maintenant, mais on espère qu'on ne va pas devoir faire ça.
Mais notre région et notre lac ne sont pas des exceptions puisque d'autres régions sont également fortement touchées par ces intempéries, notamment en Suisse centrale et Tour d'Horizon avec vous, Clotilde Loup.
En effet, le lac des Quatre Cantons passe au niveau 5 de danger d'inondation, le plus élevé. Le niveau du lac se trouve aujourd'hui à 1 mètre au-dessus de la normale. À Lucerne, plusieurs ponts sur la Reuss sont fermés. Le lac de Sempare est aussi très élevé et la promenade a été fermée car partiellement inondée. Le musée historique a fermé ses portes avec les risques d'inondation et le trafic est interrompu vers le musée des transports. Du côté de Zoug, un barrage risque de céder par les énormes masses d'eau conduites par la Reuss. Les pompiers lucernois et zougois sont intervenus une quarantaine de fois depuis hier après-midi pour des caves, garages et routes inondées. Pour finir, à Obwald, des glissements de terrain ont entraîné la fermeture de route. Plus aucun train ne circule entre Ergisville et Sarnone. Le pont ferroviaire enjambant la rivière Sarnone A a été inondé. Le lac de Sarnone déborde aussi par endroits et plusieurs chemins le bordant ont été fermés.
Merci Clotilde. Et en attendant, il est fortement déconseillé de se promener aux abords des lacs et des cours d'eau. Les personnes qui vivent dans les zones les plus exposées sont invitées à mettre leur valeur en lieu sûr. Et les étendues d'eau ne sont pas les seules impactées. En effet, la population a été fortement touchée également. Et pour l'aider, les pompiers ont été mis à rude épreuve ces derniers temps. C'est le cas dans le Jura, par exemple, qui a été fortement touché ces derniers jours. Le SIS Lavandeline entre Halle et Bernevezin ont été particulièrement sollicités. Non, les heures de mobilisation sans sommeil, c'est Jérémy Pignard qui a rencontré l'un de ces soldats des eaux.
Depuis le 3 juin et les premiers gros orages, David Bouxassès ne compte plus les alertes. Ce pompier du SIS Lavandeline en est à sa 6e mobilisation longue durée en un peu plus d'un mois. Forcément éprouvant.
Énorme, énorme. C'est très très dur physiquement, moralement pour tout le monde. On est plus que épuisé. Les heures de mobilisation se comptent en dizaines d'heures pour la plupart du temps. La nuit de lundi à mardi, j'ai été mobilisé quasiment toute la nuit. J'ai eu 3 heures de sommeil. J'ai pu me reposer hier depuis 9h le soir jusqu'à 6h ce matin. Puis 6h ce matin, il faut repartir au travail.
Comme tous ses collègues pompiers, David est volontaire et doit concilier ça avec sa vie professionnelle. Aller au boulot après une longue nuit d'intervention, ça pique un peu.
C'était plus que piqué, c'est vraiment horrible. On travaille au radar là. Faut faire face, on fait face, mais c'est très très dur.
Selon la loi, l'employeur doit libérer les collaborateurs qui seraient appelés en urgence pour un service actif, mais pour ce qui est du retour au travail, même sans avoir dormi, pas un mot dans la loi. L'inspecteur cantonal des sapeurs-pompiers, John Mosiman, appelle simplement au bon sens.
Il faut voir un petit peu l'état de fatigue. Pour un employeur, ce n'est pas adéquat d'avoir qu'un employé qui dort sur une machine ou sur son lieu de travail. Le mieux, c'est qu'il libère cette personne. C'est un petit peu une zone grise, je dois l'admettre, parce qu'il n'y a aucune précision sur l'obligation légale. Maintenant, dans les faits, c'est surtout un arrangement entre l'employeur et l'employé. Et
David Bouxassès, lui, est chauffeur dans une entreprise de Halle. Son employeur accepte plutôt bien ses obligations de pompier.
On essaye de s'arranger entre l'employeur et nous-mêmes. C'est vrai que ce n'est pas facile non plus pour notre employeur. Ça fait tout de suite du personnel en moins, et du travail qui ne se fait pas. Dans mon cas, moi, personnel, j'essaye de faire la part des choses, d'essayer de donner un petit peu à tout le monde. Mon employeur le comprend. On a aussi une entreprise qui est sinistrée aussi pendant ces inondations. Il sait le travail qu'on fait, quoi.
Et son patron peut s'attendre à retrouver un employé avec des petits yeux ces prochains jours. De nouvelles précipitations sont attendues. David et ses compagnons sapeurs-pompiers sont prêts à repartir sur le terrain malgré la fatigue.
Après plusieurs années de stagnation, l'électricité d'origine photovoltaïque a fait un bond de 50% l'an passé en Suisse. Le solaire couvre désormais 4,7% de la demande en électricité du pays. C'est l'association Suisse Solar qui présente les statistiques 2020 de la production d'électricité solaire. C'est bien, mais encore très insuffisant, le directeur de Suisse Solar, David de Stickelberger.
C'est très réjouissant, on a eu une croissance de presque 50%. Mais il faudrait avoir beaucoup plus pour décarboner notre système énergétique. Et pour cela, il ne faudrait pas avoir seulement une croissance de 500 MW par année, mais 1500 par année pour avoir à la fin environ 50 GW de puissance installée de photovoltaïque d'ici 2050. On a le potentiel sur nos toits et façades. On pourrait même produire environ 10% plus d'électricité avec des panneaux photovoltaïques. Ce qui ne suffit pas, c'est le soutien financier. Mais je dois aussi dire que la politique a vu qu'il faut agir là. C'est discuté par le Parlement national maintenant de changer le système de subsides pour le photovoltaïque.
RJB, il est 18h08.
Sport. Le maillot jaune s'offre la montée la plus difficile des Pyrénées. Tadej Pogacar a remporté la 17e étape du Tour de France cet après-midi. Le Slovène s'est imposé au sprint au sommet du col du Portet. Il a dominé le Danois Jonas Vingegaard et l'Équatorien Richard Carapaz après 178,4 km de course entre Muret et Saint-Lary-Soulan. Le leader du classement général a encore prouvé qu'il est bien le plus fort sur cette grande boucle, Mathieu Schaffner.
Tadej Pogačar avait annoncé la couleur avant cette étape la plus difficile de cette 108e édition du Tour de France. Le coureur du team UAE entendait faire rouler son équipe aussi fort que possible. Eh bien, il a tenu parole. Dès les premières pentes du tracé, sa formation s'est mise à la planche. Le Suisse Marc Hirschi a effectué un gros travail pour écrémer peu à peu le peloton et faire comprendre aux 6 échappés que leur tentative était vouée à l'échec. Le patron ensuite prit les choses en main dans l'ascension finale vers Saint-Lary-Soulan sur les pentes du col de Portet, classé hors catégorie. Une première accélération de Tadej Pogačar à 8,5 km de l'arrivée, suivi d'une deuxième 400 mètres plus loin. De quoi faire exploser tous ses adversaires, tous, sauf Jonas Vingegaard et Richard Carapaz. Le Danois et l'Équatorien se sont accrochés pour distancer le Colombien Rigoberto Urán dans la course au podium final. Carapaz a même cru signer le coup du jour en lançant une offensive à 1,3 km du but. Suivi par Pogačar, il a distancé Vingegaard, mais le Danois s'est accroché pour revenir à 200 mètres de la ligne et voir s'envoler une nouvelle fois le maillot jaune. Tadej Pogačar est insatiable, sans concurrence sur ce tour, il le confirme encore aujourd'hui. Jonas Vingegaard grimpe lui à la deuxième place et profite des bonifications pour compter 4 petites secondes d'avance sur Richard Carapaz. Le podium de la grande boucle est connu, reste désormais à savoir qui sera le meilleur derrière Pogačar.
Et Tadej Pogačar justement qui compte désormais 5 minutes et 39 secondes d'avance sur son dauphin en tête du classement général. Demain, le peloton effectuera la dernière étape dans les Pyrénées. Un tracé de 129,7 km est au menu entre Pau et Loos-Ardiden. Deux ascensions hors catégorie seront à avaler avec col du Tourmalet et la montée finale. Tous les jours, le CIO a douté de la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo. Affirmation du président du Comité international olympique Thomas Bach. L'Allemand a fait cette déclaration aujourd'hui lors d'un point presse à Tokyo à 9 jours du début des JO. Thomas Bach a également reconnu que les compétitions qui se dérouleront à huis clos allaient être différentes. Stéphanie Fugellet renoue enfin avec la victoire. L'Argovienne a fêté aujourd'hui son premier succès depuis avril sur le circuit WTA de tennis. La Suissesse a pris la mesure de l'Américaine Francesca Di Lorenzo en 3 manches 3-6, 6-2, 6-2 au Ladies Open de Lausanne. Et pour terminer, Sauber et Alfa Romeo poursuivent leur collaboration. L'écurie suisse de Formule 1 continuera de rouler sous le nom du constructeur italien ces prochaines années. Les deux parties ont annoncé aujourd'hui la prolongation de leur partenariat. Elles disent vouloir continuer à progresser ensemble vers le haut de la grille. Alfa Romeo est devenu le sponsor titre de Sauber il y a 3 ans. 18h11, c'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. Je vous souhaite une très belle soirée à notre écoute.
Les nuages sont toujours présents sur l'ensemble de la région, des averses qui vont s'étendre toute la soirée et la nuit prochaine sur la région, la plaine, les montagnes et les vallons, avec quelques éclaircies attendues demain matin, mais des éclaircies qui vont vite être balayées par de nouveaux nuages. Demain, une nouvelle journée maussade et fraîche qui va nous accompagner, peu ou pas de soleil attendu, avec toujours de fortes précipitations et du vent qui va venir accentuer cette sensation de froid. Demain matin, les températures oscilleront entre 11 et 13 degrés et il ne fera pas plus de 18 degrés demain en plaine. Il faudra attendre jusqu'à lundi prochain pour le retour du soleil dans la région.